toutes et à tous au colloque scientifique international La gestation pour autrui, resituer la France dans le monde, où nous allons échanger ensemble autour des représentations, encadrements et pratiques liées à la GPA dans différents pays. La GPA se définit par le fait qu'une femme, que j'appellerais gestatrice, porte in utero un futur enfant pour autrui, cet autrui pouvant être un homme, une femme ou le plus souvent un couple qui en seront les parents. C'est une pratique ancienne, mais elle est aujourd'hui médicalisée sous deux formes, par insémination artificielle, on parle de GPA traditionnelle, ou par fécondation in vitro, on parle de GPA gestationnelle. Dans le premier cas, la femme qui porte le futur enfant participe génétiquement à la fabrication de l'enfant, puisque ce sont ses ovocytes qui sont fécondés avec le sperme d'un donneur ou du père d'intention. Dans le second cas, la fécondation se fait avec les ovocytes d'une autre femme, une donneuse ou la mère d'intention, avec le sperme d'un donneur ou du père d'intention. Il n'y a donc ici aucun lien génétique entre la gestatrice et le futur enfant qu'elle porte. La pratique de la GPA existe dans de nombreux pays. Mais même lorsque celle-ci n'est pas autorisée, lorsqu'elle se fait dans l'ombre, de façon illégale ou cachée, elle a une réalité dans les débats sociaux. Ces débats sont souvent binaires, entre d'une part celles et ceux qui assimilent la pratique à une exploitation des femmes, à une marchandisation de leur corps et à une marchandisation des enfants, et d'autre part celles et ceux pour qui la GPA est une nouvelle forme de liberté reproductive, aussi bien pour les parents d'intention que pour les femmes qui deviennent gestatrices. Ces deux approches seront analysées tout au long du colloque, mais nous voulons ici nous situer sur un autre terrain que celui des affrontements idéologiques, politiques et moraux qui se déploient dans l'arène sociale. Notre objectif est de produire de la connaissance. Il s'agit pour nous de décrire et comprendre les réalités de cette pratique dans le monde. Le colloque est un colloque scientifique et les communications qui seront présentées reposent sur des recherches empiriques, qu'il s'agisse d'enquêtes de terrain ou d'analyse des normes, de la jurisprudence et des législations. Elles sont le résultat de plusieurs années de réflexion, d'analyse et de recherche menées par des chercheurs spécialisés sur la question. L'objectif du colloque est donc de comprendre la GPA dans une perspective de sciences sociales et juridiques. Comprendre les lois, les politiques et les normes socioculturelles qui encadrent cette pratique, l'autorisent ou au contraire l'interdisent. Comprendre les représentations que sous-tendent cette pratique, comprendre son organisation sociale et médicale, et enfin, comprendre les expériences des principales personnes concernées par la pratique, celles que nous appelons protagonistes, c'est-à-dire tout d'abord les parents d'intention, les gestatrices et souvent leurs familles, les donneuses d'ovocytes, mais aussi les médecins, les associations et agences, les acteurs et actrices politiques. Leurs expériences sont peu rapportées sur la scène publique, or ce sont principalement leurs histoires, parcours, discours et motivations qui permettent de mieux comprendre cette pratique et son évolution. Car si la GPA fait couler beaucoup d'encre et déchaîne les passions idéologiques, surtout en France, en fin de compte, on sait peu de choses à son sujet. Les pour-contre des controverses politiques semblent simples, mais ils masquent une réalité extrêmement plurielle et complexe, encore relativement peu documentée. En effet, en s'intéressant de façon méthodique à la question, on s'aperçoit très vite que la réalité de la GPA est plurielle. Elle se pratique sans échange financier, on parlera de GPA altruiste, ou au contraire, la gestatrice reçoit une somme d'argent, auquel cas on parlera de GPA commerciale. Elle est gestationnelle, la pratique la plus commune dans le monde, ou traditionnelle, mais elle peut être aussi les deux comme au Royaume-Uni. Enfin, elle peut être encadrée ou non, autorisée ou non, restreinte en termes d'accès ou au contraire ouverte. Cette diversité semble entre autres s'expliquer par le contexte spécifique de chaque pays ou communauté, comme nous le verrons entre autres avec le cas de l'Israël. En plus d'être une réalité plurielle dans sa forme, son organisation et son encadrement, la GPA est une réalité mobile. Elle n'est ni figée dans le temps, ni figée dans l'espace. Elle se fait à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle transnationale, aidée par le contexte actuel de mondialisation qui élargit les possibilités de déplacement et les réseaux de communication. Au niveau mondial, les offres de GPA semblent suivre ce que Schaeper-Hug nomme les routes modernes du capital, du sud vers le nord, des pays moins développés vers les pays développés, des pauvres vers les riches. La réalité de la GPA est également mobile dans le temps. Si la pratique est ancienne et ancrée dans la réalité de certains pays, comme au Royaume-Uni ou en Israël, sa réalité évolue rapidement dans d'autres pays. On le voit notamment avec les changements opérés ces dernières années, voire ces derniers mois, au Mexique ou dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme l'Inde, le Népal et la Thaïlande. Ces pays ont décidé, entre autres, de fermer leurs frontières aux demandes transnationales. La problématique se déplace alors, car d'autres pays développent simultanément une prise en charge locale et internationale, comme récemment le Cambodge ou le Kenya. Dans ce paysage, d'autres pays, au contraire, décident d'encadrer la pratique, comme en mai dernier, le Portugal. Cette mosaïque des pratiques, encadrement, évolution, s'observe également au sein d'un même pays, comme les États-Unis, l'Australie ou le Mexique. Cela dépasse donc une vision binaire du monde qu'on pourrait avoir, avec d'un côté ceux qui interdisent la pratique, de l'autre ceux qui l'autorisent, d'un côté ceux qui la pratiquent sans encombre, et de l'autre ceux qui en font un commerce lucratif avec risques et dérives. En plus d'être plurielle et mobile, la pratique révèle une réalité humaine et sociale complexe. Elle permet à des parents d'intention, hommes, femmes et couples, de réaliser leur projet de famille. Mais pourquoi n'ont-ils pas adopté, demandera-t-on. Il faut ici rappeler que l'adoption est un véritable parcours du combattant en France comme ailleurs, que des milliers de dossiers sont en attente. Cela n'est pas toujours possible d'adopter, surtout si on est seul ou en couple de même sexe. Par ailleurs, certains parents d'intention ne souhaitent pas adopter. Ils choisissent la GPA car ils souhaitent que viennent au monde leurs propres enfants biologiques, ou du moins celui d'un des deux parents. Enfin, la GPA permet aux parents d'intention d'échapper à la stigmatisation qui pèse sur les personnes sans enfants. Les femmes surtout, même si en même temps, elles réassignent les femmes à la maternité et au travail reproductif. Pour les femmes mobilisant leur capacité reproductive pour autrui, la GPA est tout aussi complexe. Certaines d'entre elles, comme on le verra, valorisent cette action et ce partage. D'autres, au contraire, sont exposées à des risques importants. Risques de santé, mais aussi des risques sociaux quand la pratique n'est pas acceptée par les pères et qu'elle engendre discrimination et stigmatisation. Cette complexité se voit renforcée lorsqu'il y a d'importantes différences en termes de capitaux socio-économiques entre les protagonistes. C'est le cas parfois des recours transnationaux entre les pays riches et les pays moins développés. Josnia Gupta écrit à ce sujet, je la cite, « Les privilèges des uns et des unes dans le système monde sont toujours liés à l'oppression et l'exploitation des autres femmes. » J'ai pour ma part observé en Inde, à partir de mon étude de terrain, deux choses. D'une part, la GPA, telle qu'elle est pratiquée dans le pays, ne crée pas plus d'inégalités qu'elle n'en révèle, concernant notamment les rapports sociaux de sexe, classe et origine fortement inégalitaires en Inde. D'autre part, bien que la pratique aille à l'encontre des attentes socioculturelles, bien que consciente de l'organisation médicale et administrative hiérarchique, les gestatrices indiennes que j'ai rencontrées valorisent leur engagement, qui leur permet, déclarent-elles, d'améliorer les conditions de leur vie, de la vie de leur famille, d'être de bonnes, voire meilleures mères, et de faire quelque chose de bien, c'est-à-dire aider un couple sans enfants. Malheureusement, on manque d'études à long terme pour appréhender les impacts et conséquences du recours à la GPA, aussi bien du côté des gestatrices que de celui des familles issues de la GPA. Il existe à ce jour qu'une seule étude à ce sujet, celle réalisée par le Centre de recherche sur la famille de l'Université de Cambridge, une étude au Royaume-Uni sur 14 ans auprès de familles liées à la GPA. Nous aurons la chance d'écouter demain deux des chercheurs qui travaillent sur cette étude. Enfin, la GPA a d'importants impacts sur et dans nos sociétés. Lina Peng écrit à ce sujet, pour le cas des États-Unis, que si la pratique est si controversée, ce n'est pas principalement parce que l'on s'inquiète de la condition des femmes, mais plutôt parce qu'elle bouleverse les normes socioculturelles qui structurent notre société et donc créent des anxiétés sociales et politiques. Les impacts de la GPA sont en effet importants par rapport à la famille et à la parentalité, notamment en termes de genre. Désormais, on peut faire famille à plusieurs, au-delà ou sans couple. La reproduction n'est plus obligatoirement intraconjugale. La famille n'est plus obligatoirement hétéronormative. Par ailleurs, la performance du corps reproducteur des femmes n'est plus un passage obligé pour concevoir un enfant et en être parent. Autant de changements, qui pour la plupart étaient en cours dans la société bien avant la médicalisation de la reproduction, mais qui, avec la GPA, sont mis aujourd'hui en lumière. C'est à partir de ces constats et interrogations que nous avons décidé d'organiser le premier colloque scientifique international sur la GPA en France. C'est pour mieux comprendre cette diversité, cette complexité, mais aussi les enjeux liés à la GPA au niveau local et international, que nous avons invité des chercheurs du monde entier qui ont longuement travaillé sur la question. Aujourd'hui et demain sera présentée et discutée la situation de 20 différents pays à partir d'approches et de perspectives très diverses. Au nom du comité d'organisation, je remercie sincèrement toutes les intervenantes et tous les intervenants d'avoir accepté de venir partager avec nous leurs travaux et analyses. Je souhaite également remercier l'ensemble des institutions qui nous ont aidés à financer cet événement. Enfin, je vous remercie toutes et tous pour votre intérêt. Parmi les auditrices et les auditeurs présents aujourd'hui, certains chercheurs et universitaires viennent du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne, d'Italie, de Bulgarie, d'Allemagne, de Suisse, et j'en oublie certainement. Voilà, merci et bon colloque à toutes et à tous.
Chers collègues, chers étudiants, chers amis, mesdames, messieurs, je suis heureuse d'ouvrir dans cette première matinée de travail donc cette réflexion sur la gestation pour autrui dans le monde, avec donc un panorama sur plusieurs pays du monde. Les États-Unis, en premier lieu avec Jennifer Merchant, le Brésil avec Mona Pinal et donc l'Israël avec Daphna Birenbaum. Nous allons commencer donc par une présentation de Jennifer Merchant, qui est politologue, professeure à l'Université Paris 2, qui a réalisé beaucoup de travaux sur la gestation pour autrui aux États-Unis et qui va récemment publier un ouvrage sur le droit des femmes et les arrêts de la Cour suprême aux États-Unis. Jennifer Merchant.
OK. I'm going to give my presentation in English because we have the fortunate opportunity to have two excellent translators. So I'm going to speak to you about the United States very briefly, and probably the most important and salient aspects will come out in the discussion afterwards. This particular slide just shows you that the governing and regulation of surrogacy in the U.S. is a very complicated issue, as Virginie said in her introduction. I just ask you to imagine the United States, I'm sorry, asking you to imagine the United States in the such as a sort of marble cake, gâteau marbré, with different levels of competencies and organizations and political and otherwise that oversee the practices of surrogacy. So decentralized nature of institutions, intertwined, multiple powers, which results in, I must say, more rights and liberties for some to the detriment of others, depending on the state that you live in. Therefore, the important role of the judiciary to regulate a posteriori, when a law is passed, any very huge discrepancies of human liberties and fundamental rights from state to state. These juridical foundations that come to sort of regulate or pronounce themselves as to different conflicts between states, as we all know, lies with the federal courts, especially the U.S. Supreme Court. And the federal or the U.S. Supreme Court has elaborated over time a right to privacy in matters of non-procreation. I would like to emphasize the fact, contrary to what many people say, that there is not a constitutional right to procreate in the United States. There is only a constitutional right to refuse to carry a pregnancy to term for women, and that is in the famous Roe versus Wade decision. But this has come to be also interpreted in various ways as a matter of privacy for American citizens whether or not to procreate. So though a right to procreate does not exist, it has come to be seen as a juridical philosophy in the United States, that it's an individual's choice to procreate or to not. As I say in point two, this argument is not based, and I think this is also a very important issue, on the autonomy of the person or on the supreme value of his choice, but rather on the limits that the state is allowed to set up for that person to exercise this right to privacy. Now, I can't get into details here, but it has a great deal to do with the question of abortion and contraception and surrogacy, as we will see. So in the United States, therefore, there is a very severe and longstanding problem of conflicting powers. As you all know, the country was based on the idea that states should have more rights than the central federal government. The central federal government has very specific rights contained in Article 1, Section 8, and regulating public matters is not one of them. Consequently, and in virtue of the 9th and 10th Amendments to the Bill of Rights, states and the people may take it upon themselves to regulate different areas of the law, such as penal law, family law, health law. And therefore, we hear, and this has nothing to do with this slide, but I thought I would just say it anyway, we heard Donald Trump, president-elect, say in an interview 2 days ago that he was going to name justices to the Supreme Court who would, in the long run or in the short run, whatever happens first, seeing that right now we have five justices in favor of Roe versus Wade against. We have five justices in favor of Roe versus Wade in the ideal nine justice situation. If he even were to name a justice against Roe versus Wade, we would still be 5-4. So he would have to name two to reverse this. And his answer to the question of the journalist was, well, in that case, if Roe is overturned, it'll just go back to the states, and women will have to travel to another state to get an abortion. So we can see that the judiciary has a role to play here. Let's move on to surrogacy and some facts. Contrary to what many Europeans or French people, for example, believe, ART practices do not evolve in a no man's land. There are two federal laws that govern ART practices. The first is the National Organ Transplant Act, which prohibits the paying of or the selling of organs or tissues. Hence, what is compensated in the case of egg or sperm or gestational donation is the time, salaries lost, and all medical and legal expenses. The second law requires the Health and Human Services, the CDC, the Center for Disease Agencies, to produce a report every year and render it public, which gathers all the information from all of the ART clinics around the country. These clinics are not required to provide data, but they do, because if they don't, they won't have any clients. The CDC collects this data, puts it online, and when potential parents or potential donors want to find a clinic that is accredited, if you will, or is a part of the CDC survey, then they go to there, and if the clinic is not there, then they won't go to that clinic, which has not rendered its results public. No sanctions are provided for in this second law, but clinics generally, about 90% of them, report in a very detailed manner their practices every year. On the state level, seeing that there are only these two federal laws, we have, of course, the separation of powers and the functioning of U.S. federalism as based on Article 1, Section 8. The remaining powers are called implicit, and therefore, from a practical standpoint, as I mentioned, this means that the states and their various political and juridical assemblies and associations and groups and organizations and representatives make the laws that they want for their state. Now, more specifically on surrogacy, I think it's important to realize that surrogacy is not frequent in the United States. I adjusted my figures just yesterday because a new report came out, Infertility and Sterility. There are approximately 4 million births per year in the U.S., among them approximately 1,500. Now, why do we know this? Because the fertility clinics report them, and this is data that you can find on the CDC report. This comes to approximately 1.9% of all ART practices. In addition, almost half of these surrogacy births are for foreign couples. Now, I these figures have remained constant in average mean since the annual reports in 1998, though surrogacy practices have increased. If you look at it overall from a mean aspect, they are constant. In other words, there hasn't been a huge surge in surrogacy. It is also erroneous to assume that most surrogacy arrangements end up before the courts, as we hear a lot, that there's contention, litigation, conflict, arguments. The American Bar Association has estimated at approximately 0.1% of all surrogacy practices end up in before the courts, that is to say around 2 cases per year. Now, that being said, one can be very critical, and I'm one of those persons, of the lack of coherency in laws governing surrogacy, who has access, who can be a surrogate, the different and uneven modalities, etc. Why is there a call for more coherency? Because this creates an unequal situation for women who choose to be surrogates, and sometimes pushes them to maybe go to another state because the protection for them is better. And this is something that should not exist. There should be some sort of federal regulation, this is my personal opinion, on access to and oversight of surrogacy. In fact, one of the suggestions is to extract surrogacy conventions, which generally fall into the realm of private law, to a more public health domain. Now, this map I'm not going to get into detail because it's a very interesting map. It's the latest sort of panorama of surrogacy law. The dark green states are states that are the most lenient, which have provided for pre-birth orders, and where the framing and the governing of surrogacy seems to be at its utmost insofar as protecting intended parents and the surrogate. Light green states seem to present a few more restrictions. I won't get into the detail. Yellow states proceed with caution for those who are interested in it. It's a little bit more complicated than you may think. And red states have absolutely no recognition of surrogacy conventions whatsoever. You can find this link very easily in the reference. With all that being said, I personally, in my own research, have found 4 state models out of 10. I've only chosen 10 overall, for the simple reason that these 10 do not allow for compensation to be beyond the costs, loss of work, et cetera. Excuse me. No, that's wrong. 10 states regulate surrogacy in a framework of what I find to be satisfactory. 4 of them regulate surrogacy in prohibiting compensation beyond the factors that I just gave you. Now, we can talk about that. I'm perfectly open to a discussion. I take these 4 states as an example because of that reason. That does not mean that I am against the idea of going beyond compensating the surrogate, beyond cost, et cetera, but I think that will be part of the conversation. These are the 4 states, and I will not get into the details. Suffice to say that the surrogates in these 4 states are not allowed to be beneficiaries of any sort of social welfare, Medicaid or whatever that may be, rental assistance, for the simple reason that these states strive to avoid that women who are poor turn to surrogacy for that reason. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Jennifer, pour cette présentation qui nous donne une idée assez générale, mais quand même précise de la situation aux États-Unis, où il y a quand même peu d'États, d'après ce que j'ai compris, qui refusent de reconnaître la pratique de la gestation pour autrui. Nous allons maintenant entendre donc Paula Pinal. Paula Pinal, qui est sociologue du droit, qui est professeure à l'Université de La Salle, dans le sud du Brésil, et qui s'est intéressée donc aux nouvelles technologies de reproduction, qui a notamment écrit un article donc, que je traduis moi-même, parce que je ne parle pas le portugais, « Nouvelles technologies de reproduction et droit, les femmes brésiliennes entre avantages et vulnérabilités ». Je ne sais pas si la traduction est bonne, qui est un article très intéressant sur notre sujet. Et donc, je vous laisse présenter la situation dans un certain nombre de pays du Brésil. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-Marie Leroyer pour la présentation. J'aimerais premièrement remercier l'organisation du colloque, spécialement Jennifer Merchant et Virginie Rose pour l'invitation. Félicitations pour l'initiative d'organiser le premier colloque scientifique international en France sur la GPA. C'est un grand privilège d'être présente et de pouvoir participer à des discussions, mais aussi d'écouter de grands noms de la recherche scientifique sur ces thèmes. Mes remerciements aussi à Jérôme Cordurier, grand partenaire, qui est aussi le responsable pour mon entrée dans ce domaine. Pardon de ne parler pas en anglais, mais mon français c'est mieux que l'anglais, alors je pense que les traducteurs vont faire un bon travail. Cette présentation monte à établir une comparaison entre trois pays de l'Amérique du Sud concernant la GPA, l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Nous cherchons principalement à examiner les moyens de réglementation juridique de ces pays en matière de reproduction assistée en général et plus particulièrement sur la GPA. À partir de l'observation des dispositifs juridiques, nous verrons si la GPA est autorisée ou non dans ces trois pays, ainsi que sur la manière dont elle est accessible. Qui peut être femme porteuse? La GPA est-elle prise en charge par le système de santé publique? Est-elle ouverte à des personnes célibataires et homosexuelles? Du point de vue de la logique juridique, les droits et la société ne marchent pas toujours ensemble et les changements juridiques ont l'habitude de venir après les changements sociaux. Cette situation devient davantage complexe quand il s'agit d'innovations biotechnologiques. En ce qui concerne la reproduction assistée, elle n'a pas tardé à arriver en Amérique latine. Après la naissance de Louise Brown en 78 en Angleterre et la naissance d'Amandine en France en 82, nous avons eu la naissance d'Ana Paula Caldeira en 84 au Brésil, considérée comme première bébé éprouvette latino-américaine. La reproduction assistée de façon générique est aussi très utilisée en Argentine, Brésil et Uruguay. Selon le réseau latino-américain de reproduction assistée, il existe 27 centres de reproduction assistée enregistrés en Argentine, 2 centres en Uruguay et 64 centres au Brésil. Ces différences se justifient aussi par rapport au nombre d'habitants, car le Brésil compte environ 200 millions de personnes, tandis que l'Argentine en compte environ 40 millions et l'Uruguay environ 3,5 millions, selon les données de la Banque mondiale. Même si la diffusion de la reproduction assistée est considérable, cela n'empêche pas que la GPA ne soit pas traitée comme un tabou et un sujet non central dans cet pays. On considère que dans le monde, la GPA est traitée au plan juridique selon trois logiques différentes. L'interdiction, l'abstention et la réglementation. Aucun des trois pays analysés n'a interdit la GPA. Alors que l'Argentine a choisi la voie de l'abstention, le Brésil et l'Uruguay ont choisi de réglementer. Débutons par l'Argentine. Même si elle a choisi la voie de l'abstention, cette abstention concerne seulement la GPA et non pas la reproduction assistée dans son ensemble. Il existe une loi spécifique qui réglemente la reproduction assistée, qui est la loi 26-862 de 2013. Cette norme juridique permet l'accès aux techniques, pour des couples formés par les personnes du même sexe ou de sexe différent, et aussi à des personnes célibataires. Il n'y a pas de mention à la GPA dans cette norme juridique. La reproduction assistée est réalisée dans des centres publics et privés enregistrés auparavant auprès du ministère de la Santé. Le Code civil, qui est entré en vigueur en 2015, ne cite pas non plus la possibilité ou non de recourir à la GPA. L'Uruguay a réglementé la GPA. La technique est mentionnée dans la loi 1967 de 2013 qui réglemente des techniques de reproduction assistée. Cette norme juridique considère les contrats de GPA comme nuls, mais prévoit une exception. La GPA est autorisée dès lors qu'il existe un lien de parenté jusqu'au second degré entre la femme porteuse et la mère ou le père d'intention, et à condition que la mère d'intention ne puisse pas porter l'enfant elle-même, dû à des maladies génétiques ou acquises. La réglementation inclut l'autorisation pour les couples homosexuels et les personnes célibataires. Les dépenses sont assumées par le système national intégré de santé seulement pour les cas considérés peu complexes, une simple insémination intra-utérine. Les cas de procédures de haute complexité bénéficieront, selon la loi, jusqu'à 3 tentatives totalement ou partiellement subventionnées par le Fonds national des ressources. Il y a un nombre restreint de cliniques dans lesquelles les personnes peuvent consulter pour avoir leur traitement subventionné par ces fonds. L'envoi de la demande de financement est réalisé par le médecin lui-même. Le Brésil a choisi de réglementer, mais avec une particularité. Il n'a pas de loi spécifique. La réglementation juridique est réalisée pour des résolutions du Conseil fédéral de médecine qui ne possèdent pas la force de loi, mais sont caractérisées par le Conseil lui-même comme des normes éthiques. Cela signifie que ce sont que des orientations par des médecins pour des médecins et qui ont comme principal objectif de les protéger de la responsabilisation juridique face à l'utilisation des techniques de reproduction assistée. La première résolution date de 1992 et la réglementation en vigueur est la résolution 2121 de 2015. Après 1992, la GPA a été autorisée dès lors qu'elle est réalisée de forme altruiste. La femme qui porte l'enfant et la donneuse d'ovocytes ne peuvent pas être rémunérées. C'est nécessaire aussi un lien de parenté entre la femme porteuse et la mère ou le père d'intention. En 1992, le lien de parenté devait être jusqu'au second degré. Les couples gays y ont aussi accès depuis 2015. Actuellement, la gratuité doit rester permanente, mais il est nécessaire d'identifier les problèmes médicaux qui contre-indiquent la grossesse ou dans le cas de couples formés par des personnes de même sexe. Depuis 2015, le lien de parenté exigé peut aller jusqu'au quatrième degré. Mais il faut souligner qu'il existe une brèche juridique. La résolution prévoit que d'autres cas soient autorisés par les conseils régionaux de médecine. Le Brésil possède depuis 1990 un système unique de santé basé sur les critères de gratuité et d'universalité. Néanmoins, tous les hôpitaux publics n'offrent pas de services de reproduction assistée. Malgré l'institution en 2005 d'une politique nationale d'attention intégrale à la reproduction humaine assistée dans le système unique de santé, les données de 2012 du ministère de la Santé révèlent l'existence de seulement 9 hôpitaux offrant la reproduction humaine assistée. Outre un nombre insuffisant d'hôpitaux pour répondre à la demande de la population, il y a un grand problème de distribution régionale. Il existe 4 hôpitaux dans la région sud-est, 2 dans la région sud, 2 dans la région nord-est, 1 seul dans la région centre-ouest et aucun dans la région nord. Il n'y a pas de données officielles concernant les règles spécifiques à la réalisation de reproduction assistée dans ces hôpitaux. Ils ne peuvent pas transgresser ce qui prévoit la résolution du CFM, mais ils peuvent créer des critères plus rigoureux. C'est ce qui se passe dans 2 hôpitaux de Porto Alegre, la plus grande capitale du sud du pays où je vis. Là, les femmes doivent avoir moins de 35 ans pour accéder à la reproduction assistée et ces hôpitaux ont choisi de ne pas pratiquer la GPA et les dons de gamètes. L'absence de réglementation dans les cas d'Argentine et l'existence d'une réglementation restrictive comme au Brésil et en Uruguay n'empêche pas que la GPA soit utilisée. Dans ces 3 pays, il existe des cas de GPA. En Argentine, en l'absence totale de réglementation, les parents d'intention mobilisent la reconnaissance de leur volonté de procréation prévue pour les codes civils depuis 2015 pour rétablir les liens de filiation auprès du pouvoir judiciaire. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à un couple hétérosexuel de Buenos Aires, lequel a fait appel à une femme de Mendoza pour qu'elle porte leur fils. Après avoir montré l'examen d'ADN et le contrat avec la femme qui a porté l'enfant, leur lien de filiation avec l'enfant a été reconnu auprès de la justice au motif qu'ils étaient à l'origine du projet procréatif. Les Argentins ont aussi recours à la GPA à l'étranger. Miami est une destination importante pour les personnes qui recourent à une GPA à l'étranger. Leurs justifications sont surtout les difficultés et le temps d'attente d'une procédure d'adoption, ainsi que l'absence de possibilité de la réaliser avec la sécurité juridique dans le pays lui-même. Des personnes célèbres partageant leurs expériences dans les médias contribuent à faire de ces GPA à l'étranger une véritable alternative pour les personnes qui ont les moyens. C'est ce qui s'est produit avec la journaliste et présentatrice de télévision argentine Marisa Brel, qui raconte qu'elle a réalisé la procédure à Miami, destination préférée des personnes de son pays, grâce à un médecin argentin qui est un célèbre spécialiste de la reproduction assistée de la GPA, responsable aussi de la conception des fils du chanteur Ricky Martin. Le médecin reçoit aussi à Buenos Aires, ce qui rend la procédure plus facile pour les Argentins intéressés même si le coût est d'approximativement de 90 000 $. En ce qui concerne le parcours procréatif transfrontalier au Brésil, les observations sur la réalisation de la procédure montrent qu'elle est réalisée aux États-Unis, en Inde, en Thaïlande et au Népal. À l'exemple de la journaliste argentine, une journaliste brésilienne, Tete Ribeiro, a aussi divulgué son expérience à partir de l'écriture d'un livre appelé « Mes deux fils », dans lequel elle raconte son expérience de la GPA. Les médias ont aussi fait connaître le cas d'une actrice de novella qui a eu son fils conçu au Népal. Il existe aussi des cas divulgués aussi bien dans des journaux et sur l'Internet que dans des programmes de télévision de couples gays. Dans plusieurs cas, il explique le recours par les difficultés et la lenteur du processus d'adoption dans le pays. Il existe une agence au Brésil qui fait l'intermédiaire entre les parents d'intention et les cliniques des pays dans lesquels sera réalisée la GPA. L'agence Tamus, installée à São Paulo en 2015, et son site Internet proposent actuellement des options de réalisation des GPA aux États-Unis au prix de 110 000 $ et en Ukraine au prix de 60 000 $. Quant à la réalisation de la GPA, en dehors de ce que prévoit la réglementation, il n'a pas été trouvé au Brésil des cas de personnes qui ont formulé une demande auprès du pouvoir judiciaire afin de reconnaître le lien de filiation. En ce qui concerne l'Uruguay, en dehors de ce qui est prescrit dans la loi et des cas de tourisme reproductif, nous n'avons pas trouvé d'informations sur des personnes qui ont réalisé une GPA, ce qui ne veut pas dire que ce cas n'existe pas. En conclusion, il est possible d'affirmer que le modèle d'abstention argentin n'empêche pas la réalisation de GPA, ni dans le pays, ni à l'étranger. Le modèle de réglementation brésilien, défaillant, car il n'a pas force de loi, n'empêche pas non plus les recours transfrontaliers. Beaucoup de personnes préfèrent la GPA à l'étranger. Il est en effet plus facile de trouver une femme porteuse à l'étranger plutôt qu'au Brésil, où elle doit être parente et porter l'enfant gratuitement. Le seul pays dans lequel apparemment la réglementation fonctionne est l'Uruguay. Il paraît constituer un scénario à part. Je n'ai en effet trouvé aucune trace de demande de reconnaissance des liens de filiation de la part de parents d'intention qui auraient eu recours à une GPA dans le pays ou à l'étranger. Les trois pays dont je vous ai parlé aujourd'hui n'ont pas choisi d'interdire la GPA. Pour autant, ils ne ferment pas les yeux. Même l'Argentine, qui, me direz-vous, n'a pas réglementé, prévoit que les liens de filiation entre les parents d'intention et leur enfant nés d'une GPA soient pleinement reconnus. Par ailleurs, même si les contextes nationaux présentent des différences, la particularité de ces trois pays, en particulier si on les compare à l'Amérique du Nord, est de conférer au pouvoir médical une place prépondérante. En Argentine, en l'absence de réglementation, des médecins argentins, pourvu qu'ils soient renommés, ont toute faculté pour orienter des demandeurs vers une GPA à l'étranger dans leur propre clinique. En Uruguay, ce sont des médecins qui, parmi les demandeurs, peuvent bénéficier d'une prise en charge financière par l'État et à quel hauteur. Au Brésil, la réglementation est faite non par les législateurs, mais par les médecins eux-mêmes. Je terminerai en soulignant une spécificité qui étonnera peut-être une partie d'entre vous. Dans ces trois pays, il n'y a aucun débat public sur la GPA. Le mouvement féministe lui-même ne s'est pas emparé de la question. Il se mobilise à propos d'autres dimensions de la vie des femmes, comme le droit à l'avortement et les violences faites aux femmes. Merci pour votre attention. Je vous laisse mon contact par mail.
Pardon. Merci beaucoup, Paula, pour cette présentation extrêmement riche de la situation dans les différents pays où on voit un panorama intéressant sur des questions sur lesquelles on va revenir, évidemment, la question de la réglementation, l'absence de réglementation, la question des pratiques médicales, la question de l'accès à la santé, la question des inégalités sociales, et puis la question de l'établissement de la filiation qui nous intéressera particulièrement demain après-midi. Merci encore vivement. Et donc, je vais donner la parole désormais à Daphna Birnbaum-Carmeli, qui est sociologue de la santé à la faculté du bien-être social et des sciences de la santé à l'université de Haïfa, en Israël. Son domaine de recherche concerne principalement la santé des femmes, et plus particulièrement les questions relatives à la procréation. Donc, Daphna Birnbaum, vous avez la parole. Merci encore.
Merci. Thank you very much for inviting me to this very interesting and exciting conference. What I will be trying to do is to situate the story of Israel's policy on surrogacy in the context of its legal, political and historical context. I will also look beyond the regulations of surrogacy somewhat at the status of the resulting child, which is, I think, very interesting in the Israeli case. Okay, Israelis are notorious for placing family and children in the, at the very center of their lives. Many Israelis, most Israelis actually, say or agree that childless people live empty life. So Israel is a very, very, you could say, child-centered society. Israelis have a lot of children, as you can see here, practically twice as many children as Europeans normally do. It is also important to say that there are no ecological concerns. I mean, Israelis would hardly ever, and I'm saying it just out of politeness, consider issues like the planet or ecology or anything when they think about children. Children are very, very personal for Israelis. Now, there are quite a few explanations which have been well known by now. I will also only mention them very briefly. The Jewish tradition of be fruitful and multiply, the Holocaust trauma that has led many Israelis to want to have larger families, war fears, I mean contemporary wars, and the demographic concern, again, not in terms of the planet or the universe, but in terms of the Israeli-Palestinian conflict. IVF policy is also notorious for its exceptional generosity. The state actually funds IVF universally, unrestrictedly to any woman until she is 45 years of age with her current partner. So in principle or in theory, we could think of a woman who has two children, her partner has four children from previous marriage, but they don't have any children together, or maybe they even do have one child, and they would still be eligible to state-funded IVF treatments. When the woman is using a donor or a frozen egg, she's eligible to treatment or to return to reimplant the egg until the age of 54. There is no patient screening, and all treatment combinations are allowed. The law, the religious authorities, and the media are all very, very supportive of this policy. This graph would give you an idea. We are looking at 22 years between 1990 and 2012, and we see the number rising from 5,000 IVF cycles per year to roughly 40,000. Israeli women utilize IVF more than women elsewhere in the world, roughly twice as many as more often than the second country in line, which would be either Iceland or Denmark. They are swapping in places. And here you can see the average number of IVF cycles per million. And again, Israel is leading far, far ahead of everyone. Okay, sperm banking and egg banking are also allowed. I don't want to take too much time, so I'm going very briefly. Medical sperm banking is free of charge. Social is privately funded. Egg freezing is allowed as of the year 2011. The medical egg freezing, which is done mostly by women who are about to undergo chemotherapy, is state-funded, whereas social or elective or non-medical egg freezing, we still are looking for the right term, is allowed to for any woman between the ages of 30 and 41, up to four cycles or until she has 20 frozen oocytes, and she can use them until the age of 54. I'm mentioning all these details because I think this is the social climate, so to speak, or the legal climate in which surrogacy too is being regulated and taking place. Okay. Is this a push to women to procreate now? Because if they have these eggs reimplanted, it's free of charge. Posthumous assisted reproduction is also allowed. And this is, again, very, very interesting because the right to parenthood is a human right in Israel. And in fact, recently we had a law decision that also acknowledged the right to grandparenthood, which is, I think, first maybe in the world. Okay, third-party reproduction, and here we are getting closer to surrogacy, has a lot to do with the policing of the influx of genes. Now, Jewish identity, and I'm diverting here to consider the religious aspect because, again, it's very dominant in this sphere of ARTs. Jewish identity is decided matrilineally. That means that a child born to a Jewish woman is Jewish. However, ritual status is defined by the father. For instance, social identity, we would say Abraham, son of Jacob, or the other way around. Oh, and the ritual status of Cohen or Levi are also decided by the father. But these legal or religious rules are being, I would say, tampered with by the Israeli law. And we see that all the changes are going in the direction of privileging biogenetic relatedness. Okay, if we look at we can look at donor sperm, again, these are sort of introductions to the issue of surrogacy because quite often we are looking at donor gametes. If we look at donor sperm, then in fact, religiously speaking, this is the easier part because, as I said, Jewish identity is transferred matrilineally, so sperm donation is not a big issue, and the resulting babies are anyway Jewish. I would just like to draw your attention to the fact that when Israelis need to use foreign donated sperm, which is the case very often, the state has approved 9 sperm banks in the United States and 2 in Denmark. Now, I know that Denmark is a world center for sperm banking. However, when you consider the makeup, the demographic makeup and the physiognomy of the population, I find this selection very interesting. Okay, I'm not being just cynical. I think it has a political end to it, but later on if we have some time. Now, donor egg, as I said, is the more complex issue because this touches more sensitively upon the question of Jewish identity. So again, Jewishness was traditionally defined by the mother. The mother was, again, we are talking about pre-IVF days. The mother was actually the womb. So most authorities would say that any child born to a Jewish woman is Jewish, even if the egg comes from a non-Jewish woman. Some even stricter authorities would say no, both women have to be Jewish in order for the child to be Jewish, but this is, as I say, contested. Okay, donor ova, again, no disclosure, and interestingly, it must be a Jewish woman donating an egg to a Jewish woman. Otherwise, she needs to go to the exceptions committee and things become very complicated. Adoption is very rare domestically and is completely unsupported when it is intercountry. I only want to mention here that when the child is adopted abroad, the child needs to undergo conversion in order to become Jewish. Okay, so we see here a continuum. This is probably my favorite slide that shows you the green parts are state-funded, the red parts are privately funded, and you see that as we go from full biogenetic relatedness to social kinning, the state withdraws its support, leaving the procedure more and more to the struggle and the funding of the parents. So the state really wants biogenetically related children, or supports, I should say. Okay, so we are looking here at some sort of stratified reproduction. This is a work of art, not a photograph, or a Ron Muick, if you happen to know the sculptor. So this is biogenetically related reproduction vis-a-vis social kinning. And we see that Israel's Jews are supported or are shaped by the state as a blood-based genetic network. Okay, when we go into domestic surrogacy, Israel was the first country in the world to legislate by primary law the embryo carrying law. It was in the year 1996, 20 years ago. it is allowed only to heterosexual couples. State funding is provided for the medical part, but the parents need to compensate the surrogate. We are looking here at prices that are roughly, I would say, around $40,000 to $50,000. Okay, the sperm must be that of the intended father. The egg must not be that of the surrogate. Both women must be of the same religion, again, in order to ensure Jewish identity. Now, interestingly, if none of the women is Jewish, then the same religion requirement may be waived. And I find this very interesting. Okay. Now, currently, in the past few years, the public discourse of surrogacy is dominated in Israel by the issue of gay surrogacy. Gay couples, primarily gay men couples, claim that they are being discriminated against by the Israeli law, which forces them to travel abroad in order to have a child by surrogacy. Many gay men, gay couples or individuals say that this is really discriminating against them, that they are forced to sustain very, very high economic costs, very tedious logistic and bureaucratic obstacles, but still the law has not been changed. Okay, interestingly, the fathers must have paternity tests to the babies, and there were a few cases in which the fathers in fact didn't want to have these tests because they didn't want to know who the father was, one of the two, but the state forced them to do that in order to ensure that one of them was indeed the father. Now, this process, this procedure is so cumbersome and so tedious that the websites and the agencies recommend that the couple starts pursuing the logistics when the surrogacy procedure is on month 4, just to give you an idea. And again, the babies must undergo conversion. Now, currently, the Attorney General has issued new recommendations in which they think that a surrogacy should be allowed to be performed in Israel, also to single women, but it kept silent with regard to gay couples. Okay, and the same for the Ministry of Health. Now, one brief comment, because I don't have much time, I want to go back to the issue of donor gametes and the issue of surrogacy. We see that in all the cases, the state overlooks potential donors from the Middle East, not only from Palestinian populations, but also from countries like Greece or Turkey or Cyprus, which are often drawn into the reproductive cycle of Israel, but never as donors of gametes. So when gametes are looked for, Israelis would normally go, say, to Eastern Europe. In other words, we have a sort of what appears to be a whitening, so to speak, recommendation for the needing population. Okay, a few words about conversion. And conversion is very, very important, I think, here, because a child who is not Jewish in Israel may face various legal obstacles. However, the only conversion that is accepted formally in Israel is the Orthodox, the Jewish Orthodox conversion, which is very, very demanding. For instance, couples may be required to keep kosher rules, to observe Saturday restrictions, not to travel, not to drive, not to use light, etc. And there have been a few cases in which the conversion has been revoked. In other words, a few years after completion, the couple has been reported for not leading a kosher Jewish life, and their Jewish identity has been revoked, which is a very, very drastic procedure. So what I'm just saying here, that when we look at conversion, it is being done primarily in two different distinct contexts. One is when newcomers come to Israel and their spouse is not Jewish, but then the significance of conversion is that of social and religious inclusion in the Jewish-Israeli collectivity. Whereas here, in the context of surrogacy, it's in a way an exclusion of the mostly Jewish Israeli parents, mostly gay men, who need to have their child, and in fact themselves, undergo this kind of demanding procedure in order to be reintegrated into the collectivity they have been born into and excluded from by the procedure of cross-border surrogacy. So in this way, true, surrogacy is accepted, surrogacy is legal, but it does carry along a very, very strong sense of exclusion. Not only financial, economic exclusion, but also religious and social. Okay, now one more interesting point is that many parents, especially gay parents, choose not to undergo conversion because it is so demanding and in a way even could be perceived and experienced as humiliating. But once this non-Jewish child goes to the army at the age of 18, they can undergo very swift, very friendly conversion procedure and become fully Jewish. So this means that once you join politically, you are also given a kind of religious clearance. Food for thought. Okay, so we can say that ARTs are sponsored fully when they lead directly to biogenetic heteronormative families. They are sponsored partly by the state when they lead to partial biokinning, and not at all when they lead to same-sex or social, i.e. adoptive kinning. I just wanted to show you a few photographs of, this is a homosexual couple who have had children from two surrogates in India. One of them conceived with twins, the other with a singleton. Both women gave birth within 2 weeks, and this is the beautiful family that they are now raising. Thank you very much.
Merci beaucoup, Daphna, pour cette excellente présentation qui nous montre une question qu'on aurait pu trouver paradoxale, c'est comment est-ce qu'un État qui dispose d'un statut personnel et familial de droit religieux encourage finalement la gestation pour autrui, et comment des questions relatives à la gestation pour autrui sont ensuite rattrapées par le droit religieux.